Voilà, alors ce qui a été proposé à l'équipe Airgap, enfin ce qui a été demandé, c'était d'exemplifier un petit peu la façon dont on procédait et ce qu'on pouvait en tirer. Donc on a pris le parti pris de présenter un court extrait, ça fait bon le bruit, un court extrait d'autoconfrontation, enfin donc de ce qu'on peut en retirer nous comme analyse. Puis un petit schéma peut-être récapitulatif de ce qui caractérise peut-être notre façon de faire. Je vous présente rapidement le contexte. Donc Steph est un professeur d'art plastique débutant, de très bonne volonté, considéré comme une bonne stagiaire, très sérieuse, qui prépare ses cours avec beaucoup de soins, sur des fiches de cours particulièrement bien soignées. Et elle a accepté, avec Jean-Claude, nous avons entrepris de longue date un travail sur le métier de conseiller pédagogique. Donc moi dans le second degré et Jean-Claude dans le premier. Et Steph est la débutante en art plastique et Lucie, sa professeure conseillère pédagogique. Et puisque nous travaillons sur le travail puisque nous étudions le travail des conseillers pédagogiques, cette stagiaire a accepté de se soumettre à deux entretiens de conseil consécutif à une séance de cours qu'elle a menée. Donc le premier conseiller pédagogique est celui qui la suit toute l'année, et la seconde est donc cette Lucie, qu'elle a reconnue par ailleurs dans la formation, mais qui donc n'a jamais vu son cours. Donc là, nous sommes à la toute fin du second entretien de conseil pédagogique. Et on s'aperçoit, alors bon, évidemment, je vous demande la grâce de bien vouloir me croire, mais... En fait, on s'aperçoit que pendant toute la durée du premier conseil avec son conseiller habituel, puis pendant pratiquement tout le deuxième conseil, la stagiaire n'arrive pas à s'emparer vraiment des conseils qui lui sont prodigués. Elle passe à côté et en fait, elle ne s'aperçoit pas que ce qui pêche dans son dispositif de cours, c'est justement la conception. Mais pour elle, justement, on va pouvoir parler éventuellement de la fiche de cours, parce qu'on en a parlé un petit peu hier, et des outils qui circulent en formation. Mais donc, il y a quand même quelques petits soucis qui vont se manifester. Alors, enfin, à nos yeux, ce petit extrait est emblématique, parce qu'il va montrer à la fois ce que permet de soulever le cadre méthodologique, et puis de montrer aussi des aspects du travail, comme l'a dit Anne ce matin, des aspects du travail élargis, et pas simplement... circonscrit à la classe. Donc Steph s'aperçoit à la toute fin de l'entretien, du deuxième entretien, que finalement, effectivement, son cours n'est pas si merveilleux. Hein. On parlait hier des effets positifs en retour et subjectifs sur le travail des enseignants, mais Steph, au début, était très contente de son cours, parce que pour elle, elle avait tout bouclé, elle était très, très satisfaite. Mais elle s'aperçoit donc, à force, et sous le feu des questions, j'allais dire, de ses conseillers, que finalement, c'était pas si génial que ça. Et donc, elle nous dit, mais ce sujet, par exemple, que j'ai travaillé sur cette fiche de cours, que j'avais tapé, je ne le redonnerai jamais comme ça, en fait. Je ne le redonnerai jamais tel quel. Mais je vois... Alors, tout ça, j'ai sauté des lignes, mais c'est à la suite. Hein. Mais je vois maintenant ce qui ne va pas. Mais le jour où je l'ai préparé, la veille et la semaine d'avant, je n'ai pas pensé à tous ces paramètres-là. C'est ce qu'il faudrait faire, je sais, mais c'est pas évident de penser à tout, tout le temps. Alors, j'ai mis en gras, en caractère gras, tous les indicateurs. Alors là, une petite indication sur comment on fait dans notre dispositif de recherche. Donc évidemment, on n'étudie pas les images, mais on étudie les discours qui sont produits. Et là, par exemple, on repère des thèmes récurrents, et notamment là, la temporalité dans son discours était très importante. Alors évidemment, ça rentre en résonance avec ce qui s'est passé avant, ce qu'on va repérer aussi après dans son discours, mais pour nous, ces récurrences de préoccupations hein, qui ressurgissent tout au long du discours, parce que bon, pour une autoconfrontation de ce type, pour une heure de cours, il faut savoir qu'une autoconfrontation dure à peu près au moins le double, et que ça fait quand même une bonne trentaine de pages de transcription. Hein. Donc ce thème, par exemple, de la temporalité, est repéré tout au long du discours de Steph, par exemple, ici. Et là, il est particulièrement manifeste que son travail, on voit bien combien il la préoccupe avant, il va la post-occuper bien après son travail dans la classe, et que quand on parlait ce matin, par exemple, de surcharge mentale et cognitive, on voit bien là comment la stagiaire a du mal à tout gérer tout le temps, hein, et en très peu de temps, comme elle le dit. Donc elle dit « J'avoue que c'est toute la difficulté du travail, c'est de prévoir des stéréotypes, parce que là, bon, les gamins en art plastique ont tous produit de façon tout à fait stéréotypée des petites maisons et qu'elle n'avait pas du tout prévu ça. Donc c'est de prévoir leurs questions, de prévoir que s'ils font ça à la maison, ils vont ramener une boîte prédécoupée, parce qu'ils ont tous ramené des petites boîtes à chaussures. Donc il y a plein de choses qu'il faut gérer en très peu de temps. Et évidemment, le travail, concernant les objets de recherche de Christine davantage, tout ce travail à la maison, qui poursuit le travail engagé en classe, ça évidemment, elle n'a pas envisagé que les élèves pouvaient penser encore à son cours après. Donc la suite, en plus de ça, je découvre en même temps l'enfant, c'est vrai. Je ne m'attends pas toujours à ces réactions-là, donc je découvre. Et donc là, on voit bien combien tous les cours, par exemple, sur psychologie de l'enfant, etc., elle les a eus à l'IUFM. Mais ça n'entre pas en résonance avec ce qu'elle découvre au jour le jour de la réalité, effectivement, ce sont des sixièmes, ce sont encore des enfants, ce sont encore de très jeunes adolescents. Mais c'est vrai que parfois aussi, quand je sors du cours, je me dis « mince, tu aurais dû être plus incisive à ce moment-là ». Mais c'est vrai que parfois, on n'a pas la répartie nécessaire au moment voulu, parce qu'on est surpris de cette réponse-là. On est pris un peu de court, je trouve. Et donc, vous voyez, encore une fois, comme c'est combien elle a trimballé ça encore chez elle, le soir. Donc, la formatrice lui dit, oui, mais c'est vrai qu'avec l'expérience, de façon un peu rassurante, on est plus habitué au genre de réponse des élèves, au type de travaux qui risquent d'être produits. Et Steph répond, mais c'est vrai que parfois, le soir, je me dis, mais là, il va falloir que je recadre à fond la semaine prochaine, qu'on élimine tous les malentendus. Vous voyez aussi combien ce travail sur ce qui s'est passé. On est là dans un cadre méthodologique qui permet un travail sur une situation qui a déjà été vécue. Hein. Mais combien on arrive à faire remonter certaines préoccupations qui sont de l'ordre évidemment didactique, puisque sa fiche de cours était à ses yeux, on va dire. La plus efficace possible par rapport à son niveau à l'époque. Donc au niveau didactique, elle avait bien prévu son dispositif, sauf qu'il n'est pas tout à fait parfait, qu'il va pas, et que c'est bien ça qui pêche là. Mais combien ça lui permet aussi de se projeter vers l'avenir en disant que la semaine prochaine, effectivement, ça y est, elle a compris certaines choses qu'elle va pouvoir réorienter autrement. Voilà, donc je m'arrêterai là pour Steph. Et un deuxième petit exemple, parce qu'on nous a demandé aussi déjà hier un petit pointage donc, sur l'aspect subjectif hein, de l'efficience que nous pouvons regarder. Là, on est sur une débutante, mais c'est dans l'article qu'on a photocopié ce matin. Par contre, un enseignant expérimenté en ZEP qui nous dit, lui, qu'il en est à sa 11e année d'enseignement. Et il y a des choses que je ne faisais pas au début et sur lesquelles je suis revenue de manière systématique pour mon confort dans ma vie de tous les jours. Je vais parler directement, vous entendez mieux comme ça hein ouais. Je me rappelais que j'étais vraiment prof. Donc, il y a des choses que je ne faisais pas au début et sur lesquelles je suis revenue de manière systématique pour mon confort dans ma vie de tous les jours et pour la qualité du cours. Alors, je m'excuse, c'est pas un cours d'art plastique, mais ça ne fait pas. Donc, un cours d'art plastique complètement lâche, dans ce genre d'endroit, avec des gamins aussi jeunes et aussi peu structurés, c'est à mon avis suicidaire. C'est faire du n'importe quoi. S'il y a une faille dans un système mis en place, les élèves s'y engouffrent, la tête la première, et c'est le prof qui se fait manger la petite cuillère. Moi, j'ai envie de rentrer chez moi, d'accueillir les classes d'après, et d'avoir des journées correctes. Alors, comme le décrit par ailleurs, hein, cet aspect de la savoir durer au travail, sachant qu'un enseignant d'art plastique à l'époque avait 20 classes par semaine, donc ça fait à peu près 450 à 500 élèves, dans un contexte difficile, il faut pouvoir effectivement durer toute la semaine, durer toute la journée, et rentrer chez soi dans un état psychologique et physique relativement stable, on va dire, qui permet de continuer une vie normale et de pouvoir recommencer le lendemain. Voilà, donc ça fait partie, nous, des préoccupations du regard sur le travail que l'on peut avoir. Hein. Qui n'empêche pas, évidemment, tout le regard porté aussi sur le travail dans les classes. Mais pour répondre à la question de l'empant hein, du regard sur le travail que l'on porte.
Les prescriptions elles-mêmes, c'est la première ressource collective. Alors, prescription, j'y intègre également le référentiel, hein, qui est le référentiel, par exemple, professeur des écoles, le référentiel, professeur de collège et lycée, qui est une prescription. Et donc, les prescriptions, nous, selon notre modèle, elles sont nécessairement réinterprétées d'abord de manière collective, puis ensuite individuellement, et que la formation quand elle s'empare de la question des prescriptions, elle ne les met jamais en débat avec les stagiaires. C'est jamais rediscuté. C'est jamais susceptible de contestation, de transformation. Et donc là, nous on considère que c'est la première de ressources. Hein, souvent, c'est pris comme quelque chose de non négociable, de non discutable. Et pour autant, quand on voit la difficulté qu'ont les stagiaires, et on le voit au travers des films de hier, notamment à propos de la fiche de préparation, quand la stagiaire dit on nous demande d'en faire, mais on ne nous dit jamais comment on les fait. On voit bien que la question de la prescription est en arrière-fond, parce que la fiche de préparation est souvent utilisée pour, sans le dire, obliger les stagiaires à se confronter, enfin, à se familiariser avec le discours de la prescription, la forme de la prescription, et pour autant c'est pas opérationnel pour eux, hein, immédiatement, et la fiche de préparation contribue très peu à faciliter les mises en œuvre. Donc voilà, une première ressource, il y en a d'autres, mais celle-là, elle est souvent oubliée, hein, dans la formation des enseignants. Quels outils pour le formateur ? Ben, je pense que on a essayé peut-être pas suffisamment dans nos interventions dans les ateliers de montrer que le cadre méthodologique que l'on adopte est une formidable ressource pour la formation. Ce qui suppose, pour bien comprendre ce qu'on veut dire par là, que pour nous, on considère l'analyse du travail comme formation. Et donc, on pose la question d'une formation par l'analyse du travail à partir d'un cadre méthodologique qui il faut peut-être le rappeler parce qu'on l'a pas suffisamment mis en avant, se met en place suite à une demande, ce qui nous permet de répondre aussi à la question de l'empathie, hein, qui avait été posée, mais pas simplement à l'équipe d'Aix-Marseille, hein, la question de l'empathie. Ce cadre méthodologique répondant à une demande, bon, la question de l'empathie, elle est comprise là, hein, dans l'intervention. Et donc, ça pose aussi une question. Alors là, c'est nous qui retournons, qui terminons par une question. Est-ce que la formation est un travail, hein, quand on regarde le peu de considération qu'ont, par exemple, les rectorats qui retirent des IUFM, hein, les formateurs associés, comme si c'était des pions interchangeables, on se pose la question, est-ce que la formation, c'est un travail ? Voilà.
Oui, peut-être juste un mot sur la dimension collective et individuelle comme ressource. Donc, dans ce cadre méthodologique, hein, qui suit de manière très chronologique, c'est-à-dire on intervient, c'est vraiment, on revendique cette position d'intervention recherche, on intervient toujours à la demande d'une équipe, pluricatégorielle ou pas d'ailleurs. À partir de là, on constitue un collectif restreint qui est constitué par les gens qui ont fait la demande. À partir de là, on filme, comme on a pu le voir hier. De ces films-là, il y a une autoconfrontation simple, puis des autoconfrontations croisées. Le travail collectif est dans la constitution du collectif restreint, où ce que l'on met en travail, ce sont bien entendu la réappropriation des prescriptions, qui soient à la fois floues ou au contraire extrêmement contrôlées, par exemple sur les méthodes de lecture. Donc on peut rentrer sur des savoirs disciplinaires, on peut rentrer aussi sur la complexité, la complexification du métier et l'intensification des tâches et des missions que les enseignants ont à assumer. Bon, les demandes sont pluricatégorielles là aussi, hein. Donc là, le travail collectif, il se fait à ce moment-là. Puis on regarde comment collectivement, hein, dans la question par exemple de l'aide personnalisée, comment le collectif se represcrit, s'auto-prescrit, hein, à partir d'une prescription. Donc l'IEN est présente. Donc elle aussi, elle a ses prescriptions, je dirais, à appliquer, en tous les cas, à communiquer à l'équipe. Et comment, à partir de là, l'équipe, avec le conseiller, le secrétaire du comité exécutif, va décider de comment on travaille, par exemple, cette question-là. Donc là, il y a un travail qui est collectif. Le travail que nous faisons ensuite au sein même de la classe, c'est une appropriation individuelle. C'est comment chaque enseignant se réapproprier individuellement les prescriptions qu'ils se sont auto-prescrits, je dirais, au moment du collectif. Ces prescriptions-là sont à nouveau rediscutées au moment où on sélectionne des extraits, comme vous l'avez fait là par rapport au projet de l'UFM. Hein. Et chaque enseignant va décider avec le chercheur, bien sûr, hein, de quels sont les passages qui nous paraissent, aussi bien aux professeurs qu'aux chercheurs, qui nous paraissent emblématiques, prototypiques, hein, d'une situation qui peut être justement remise en discussion. Et de nouveau, retour au collectif, c'est-à-dire comment ce que l'on montre là et qui a été décidé fait parler le métier, comment ça se constitue comme un répondant du métier, c'est-à-dire est-ce que là on a par exemple des éléments sur la manière de distinguer les élèves qui vont aller en aide personnalisée, par exemple par un PPRE. Est-ce qu'on a là sur la question de l'anticipation des choses au niveau didactique, hein, qui paraissent tenables. Voilà, ces questions-là sont des questions pour nous, hein, notre cadre méthodologique et pour nous, un élément de ressources et d'outils. Voilà. Et qui vient rediscuter la question du collectif et de l'individuel. Donc c'est vraiment un emboîtement et quelque chose de dialectique, hein, qui se renvoie en permanence. Bon, et peut-être le dernier point, c'est qu'effectivement, ces réponses-là, j'ai envie de dire qu'elles sont locales. Je crois que la question qui se pose aussi sur l'évaluation, c'est les réponses qu'on peut apporter. Je crois que nous, notre position par rapport à ça, elle est très claire. Hein. Les réponses qu'on apporte dans les établissements co-construites avec les gens avec lesquels nous travaillons, elles sont nécessairement locales. Qu'est-ce qui peut monter en généralité? Ce sont probablement les questions qui émergent de ce travail-là. C'est quoi aider efficacement un élève en difficulté? Ça, c'est une question, effectivement, qui est une question du métier. La réponse que l'école Saint-Charles a donnée, c'est une réponse très locale. Ce qui fait que notre formation aussi, et tout le travail que nous faisons en tant que formateurs, hein, et pas simplement que chercheurs, c'est aussi monter des réseaux, donc des réseaux, au sein même des réseaux d'aide, hein, des groupes d'appui pédagogique, et où on forme quelques enseignants qui ont envie de réfléchir à des méthodes, donc à notre cadre méthodologique, hein, c'est-à-dire des gens qui sont aussi capables de se filmer. Bon, tout à l'heure, on discutait avec le collègue de Savoie, bon, a priori, hein, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes se filment, travaillent en autoconfrontation ou en instruction au sosie, parce que ce sont des dispositifs peut-être un peu moins lourds et un peu moins coûteux, transcription, retravail sur les prescriptions, là, hein, quelles sont les contradictions qui sont au cœur de la pratique de Steph, par exemple, hein, donc retravail sur les prescriptions et comment ensuite ce groupe d'appui pédagogique peut aller travailler au sein d'établissements. Donc nous, il y a aussi vraiment là encore une étape intermédiaire d'enseignants et de profs référents, hein, et de conseillers pédagogiques qui travaillent au plus près de notre cadre théorique et méthodologique et qui ensuite va sur la formation, par exemple l'éducation prioritaire, sur la formation des assistants pédagogiques, par exemple. Voilà.
Et juste un mot aussi pour conclure par rapport à l'aspect collectif et aux ressources collectives. C'est-à-dire que donc l'idée, c'est aussi que tous les travaux de l'équipe puissent finalement se compléter et donner des ressources concernant les aspects spécifiquement disciplinaires de certains enseignements, mais aussi sur tous les aspects génériques du métier enseignant en général. Par exemple, donc, on a parlé du conseil premier degré et second degré. Nous, on voit combien il y a des convergences, il y a des divergences aussi, bien sûr. Pour moi, par exemple, le travail de l'analyse de l'activité des professeurs d'art plastique a été aussi une façon de regarder l'activité enseignante en général, avec des effets de loupe sur certains points que l'on retrouve dans énormément de disciplines, que ce soit même chez les enseignants de maternelle ou ailleurs. Donc il y a aussi cet aspect-là, ressources collectives, dans l'aspect transversal et générique du métier enseignant. Voilà.
Merci. On va intervenir à plusieurs voix comme hier dans les ateliers et on voulait à la fois reprendre quelques points qui avaient été mentionnés ce matin, donc des réactions un peu libres, quoi, qui sont à la fois d'équipe et puis parfois plus personnelles, et puis reprendre aussi quelques questions qui avaient été posées plus directement, je crois, par certains d'entre vous. Alors, d'abord dire peut-être pour positionner. Alors, bon, on va pas rappeler ce qu'on a dit hier après-midi dans les différents ateliers préciser notre approche, mais on est plus directement peut-être, ou en tout cas ce qu'on a voulu mettre en œuvre, c'est plus directement une grille de lecture possible parmi toutes celles qui existent, permettant de comprendre ce qui se joue en situation d'entretien avisé ou ayant une dimension d'évaluation, en se disant on peut lire ce qui est en jeu dans l'évaluation. avec une approche qui est utilisée plus largement dans d'autres, sur d'autres terrains, puisque ce qu'on a travaillé, c'est une espèce de problématique commune pour des terrains très très différents, passant, alors on l'a pas dit hier, donc je crois que c'est important de le dire aujourd'hui, par exemple l'inspection du travail, par exemple, donc ce sont des champs professionnels différents, les personnels de sécurité, la formation d'adultes. L'idée, c'était de se demander, mais finalement, c'était le point de départ de nos travaux d'équipe. Qu'est-ce qui est en jeu quand on parle de professionnalisation et de développement professionnel? Et là, depuis hier, on parle davantage, et c'est bien normal, d'analyse et d'évaluation. Et pour nous, très directement, l'évaluation, peut-être surtout l'évaluation professionnelle, est à situer, il nous semble naturellement, dans une logique d'articulation entre ce qui est du domaine d'une offre ou d'une injonction venant d'une institution. Pour faire simple, nous avons le, et puis il y en a d'autres, mais le dernier référentiel des 10 compétences s'agissant de la formation des enseignants, avec un discours sur ce que doit être un enseignant. Et puis de l'autre, nous avons des acteurs, enfin des acteurs ou des sujets ou des individus ou des personnes. Là derrière, il y a aussi probablement des positionnements différents qui ont leur propre trajectoire, leurs propres intentions, leur propre outillage. Et se joue là probablement ce qui est de l'ordre d'une alors c'est comme ça qu'on a abordé les choses, d'une transaction ou d'une négociation qu'on pourrait appeler identitaire, l'enjeu étant l'attribution d'une place ou la reconnaissance d'une place. Et ce qui est en jeu dans l'évaluation, nous semble-t-il, c'est bien ce travail d'attribution ou de reconnaissance de place à un certain moment. Dire tout ça pour simplement en introduction pour préciser que on a peut-être de ce point de vue-là un statut, enfin notre perspective a peut-être un statut particulier. C'est plus une parmi tant d'autres, une grille de lecture, mais pas au sens, par exemple, de ce que peut être la clinique de l'activité, une grille de lecture et de transformation de la réalité. Je crois que, et ça, je pense que c'était important qu'on le précise, parce que c'est toute la richesse aussi de l'analyse de l'activité, c'est qu'avec certains outils dont vous avez parlé, on n'est pas seulement dans l'analyse de l'activité, mais aussi dans l'aide au développement des personnes et de cette activité. Nous, on est plus, enfin, de ce point de vue-là, l'approche est un peu différente. Alors, peut-être reprendre quelques éléments qui nous ont semblé importants ce matin lors de la restitution et de la présentation et de la réaction d'Anne. Bon, ce qui nous paraît... alors, dans quel ordre prendre les choses ? Oui, ce qui nous paraît un des points importants, et c'est évidemment l'intention des deux journées, c'est de dire que finalement, avant d'évaluer, il faut comprendre, essayer de lire, on pourrait dire, l'activité. Et là, bon, je crois que c'est un des points forts. Alors, bien entendu, il y aurait une question peut-être un peu en creux à travailler, c'est la question des obstacles qui a été évoquée ce matin, des obstacles à l'analyse. Et peut-être que là, alors, a été évoqué notamment un obstacle d'ordre institutionnel, on pourrait dire, où c'est l'idée de prescrire, l'institution qui prescrit des outils et qui a des attentes fortes de retour quantitatif dans un temps très court. Ça, c'est probablement un obstacle à l'analyse qui fait qu'on n'a pas le temps réellement de faire une analyse, mais on en entre tout de suite avec des outils institutionnels dans l'évaluation. C'est probablement une question à travailler. C'est comme ça qu'on réagirait, hein, notamment à ce point-là, c'est-à-dire essayer de repérer davantage peut-être les obstacles à l'analyse. Alors, on a aussi évoqué la question de la réflexivité ce matin. En lien ou pas avec l'auto-évaluation, simplement pour dire que, et là je prends appui sur des travaux qu'on a pu réaliser dans d'autres secteurs professionnels, je pense notamment à l'industrie. Alors bien sûr, l'activité de la relation humaine n'est pas l'activité de transformation de la matière ou de surveillance d'une machine et d'intervention sur une machine, parce que l'élève n'est pas une machine. Je ne sais plus qui a dit que c'était du domaine de la co-activité, hein, les activités de la relation. Donc on agit et on construit avec l'autre, puisque l'autre a aussi des états d'âme, etc. Mais juste pour dire que il y a eu des travaux sur la réflexivité qui montrent qu'effectivement c'est une façon de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, de regarder différemment. Je pense notamment à la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80. Je pense aux travaux d'Argyris Session. Je les avais juste évoqués. Vous vous souvenez hier matin où une démarche. Et puis c'est vrai aussi des techniques, par exemple de l'autoconfrontation. Et ça permet effectivement de favoriser un pas de côté. Et donc peut-être aussi de voir autrement pour faire autrement, mais d'abord de voir ce que l'on fait. Et puis il y a des expériences, alors sans doute qui présentent là des difficultés. Enfin, chacun aura son point de vue. Où la réflexivité est aussi un moyen d'incorporer des catégories sociales, des catégories institutionnelles. Je pense à certains dispositifs d'analyse de pratique, par exemple, qui ont été très bien orchestrés dans certains lieux. J'ai un exemple très précis dans une entreprise de textile, où finalement, ce qui s'est joué, au final, c'est une espèce d'intériorisation des critères d'évaluation proposé par l'institution avec des objectifs. Bon, l'entreprise avait des difficultés de rentabilité et donc il y avait des critères de qualité, de sécurité, de productivité qui guidaient la définition, la redéfinition des pratiques. Et l'entreprise avait choisi non pas de proposer à un cabinet de consultants d'intervenir, mais plutôt de proposer aux salariés volontaires de redéfinir par eux-mêmes les bonnes pratiques. L'encadrement ou l'animation, qui était pourtant apparemment légère, de ce processus a contribué à faire en sorte, et puis finalement les gens sont rentrés progressivement dans une logique qui, à mon avis, présente beaucoup d'avantages, qui consiste à dire, eh bien, l'un des critères probablement pour définir les bonnes pratiques, c'est le critère de la qualité. Mais ça veut dire, ce faisant, qu'il y a un processus d'intériorisation de catégories sociales. Donc peut-être que là, il y a une question qu'on peut se poser aussi concernant la réflexivité. Et je pense notamment au lien entre réflexivité et auto-évaluation. C'est, est-ce qu'on est dans... Alors si c'est de l'analyse, mais si c'est de l'évaluation, l'auto-évaluation... De quel référentiel, c'est toujours la même question, parle-t-on? Est-ce que c'est et quelle est la place de la référence externe par rapport à la référence interne? Autrement dit, je pense que dans certaines situations, la réflexivité peut être une source d'enfermement beaucoup plus grande que Alors, je voulais revenir sur peut-être une ou deux questions qui avaient été posées ce matin au sujet de la définition du mot compétence. Alors on peut avoir des sensibilités différentes, bien entendu. On sait tous que sur la question des compétences, il y a une multitude de travaux depuis très très longtemps. Et je pense que en gros, on pourrait faire un panorama. Il y a 6 ou 7 approches assez distinctes. Et puis il y a une différence qu'on peut adopter, et je crois que chacun a besoin de se positionner par rapport à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Nous, on a pris une position, donc c'est pour revenir, hein, être plus précis par rapport à la question posée ce matin, en tout cas être plus précis dans la réponse. Ou bien on considère que c'est l'activité finalement qui est le propre de ce que l'on regarde. Enfin, ce qu'on regarde, c'est ce que font les gens. Donc l'activité, et on considère que ce qu'on va qualifier d'une certaine façon, ou la façon dont on va qualifier l'activité, relève de l'attribution d'une compétence. C'est-à-dire que finalement, certains pensent, et on est plutôt sur cette ligne, que ce qui existe, c'est l'activité, ce que font les gens, et la façon dont on en parle et dont on la qualifie, c'est du domaine de la compétence. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Hein, on pourrait avoir une opinion différente en disant nous sommes porteurs de compétences. C'est quelque chose qui est de l'ordre des propriétés aussi intrinsèques développées au fil de l'activité. Et finalement, les compétences, c'est comme l'activité, ça existe dans l'activité. Vous voyez, c'est une question de. Alors. si on regarde un peu l'histoire, il me semble que le mot compétence, il existait surtout au singulier, auparavant, peu au pluriel, et c'est bien avec, sans retracer des évolutions du travail que tout le monde connaît, mais avec l'apparition d'un nouveau contexte, qu'on parle de compétences au pluriel. Et ça s'accompagne aussi d'enjeux d'individualisation du travail, de transfert de responsabilité, aussi d'efficacité, qu'on a évoqué ce matin sur les personnes et moins sur les institutions. Et donc il y a des enjeux sociaux derrière probablement, mais ça veut dire que c'est une catégorie sociale qui apparaît à un certain moment. Naturellement, on ne parlait pas de compétences. Ça apparaît à un certain moment. Donc ça fait partie d'un vocabulaire social. Donc notre position consiste à dire que les compétences, ce sont plutôt des étiquettes. Et peut-être que l'un des enjeux de l'évaluation au sens de l'évaluation externe pour les institutions, c'est d'attribuer les bonnes étiquettes à propos des activités qui ont été identifiées ou l'activité qui a été identifiée, analysée, lue d'une certaine façon. Mais les compétences, elles existent aussi chez les personnes, selon nous. Mais on peut avoir des points de vue différents, hein, bien sûr, sur ces questions. Sous la forme peut-être d'un sentiment de compétence, c'est-à-dire la façon dont finalement on vit et on ressent et on incorpore d'une certaine façon aussi les grilles de désignation ou de qualification de nos activités, qualification sociale de nos activités. Finalement, on pourrait dire que la compétence est une nouvelle façon de qualifier. C'est une nouvelle forme de qualification, alors que la qualification correspond à une autre logique antérieure. Bon, ça c'était sur le mot compétence, juste pour préciser comment... Donc, par rapport aux extraits que nous avons vus hier, on pourrait dire que c'est un peu comme ça qu'on verrait les choses. Il y a bien entendu du côté des stagiaires un sentiment de compétence qui se construit progressivement, parfois un sentiment d'incompétence, d'ailleurs on parle, et du côté du maître formateur ou du conseiller pédagogique, il y a un processus d'expression de compétences prescrites, donc on parlait du travail prescrit tout à l'heure, compétences prescrites qui reprennent les intitulés parfois officiels par exemple de la grille des 10 compétences, mais qui peuvent relever aussi d'une conception implicite, donc là d'un référentiel implicite. Et puis il y a aussi à un certain moment et probablement l'entretien de fin d'année un processus d'attribution de compétences lorsque le maître formateur dit oui, là, ça y est. Autre point peut-être, je prends peut-être trop de temps. La place du personnel et du professionnel, c'est une question qui a été posée ce matin, je crois aussi. Je pense que on est tous d'accord pour dire que surtout dans les métiers de la relation, on fait son métier avec ce qu'on est, et donc la difficulté, c'est de séparer finalement. Il y a beaucoup de personnel dans le professionnel, dans nos activités. Bon, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait répondre, en tout cas de notre point de vue, à cette question. Et dans certaines activités, par exemple, certains métiers relevant de la vente, le développement personnel fait partie intégrante et est affichée comme d'ailleurs du développement professionnel. Peut-être terminer sur deux points. Je te laisse.
Ouais, les deux derniers points pour revenir là sur la formation plus des enseignants puis des formateurs d'enseignants. Il nous semble qu'il y avait question de la temporalité. Richard disait que un modèle comme le nôtre est distancié et finalement là on l'a plaqué sur une situation qui est formation d'enseignants débutants, mais c'est un modèle qui est aussi pensé et utilisable pour des situations de formation continue, et je crois tout au long de la carrière, puisque ce qu'on a essayé de montrer, c'est que tout ça est évolutif. Quand on est dans la transaction, dans la négociation identitaire, c'est un processus dynamique. Et par rapport à ça, l'élément Vous parliez d'opérationnalité ce matin dans vos questions, ça paraît logique et légitime. Il nous semble que si le modèle, Richard disait que le modèle ne vise pas la transformation des pratiques, et clairement non, en même temps ça ne veut pas dire que ça ne peut pas y aider. Et il nous semble que ça peut y aider en donnant aux praticiens un modèle d'analyse et de reprise de distance, de distanciation sur leur propre pratique de formateur, d'enseignant, dont il semblait dans beaucoup d'échanges que actuellement on puisse faire le constat que ça manque un peu. Et par rapport à ça, il nous semble que nous, une grille comme la nôtre permet de penser à des éléments qui souvent restent implicites, c'est-à-dire la distanciation entre sa place d'évaluateur dans le cadre d'une professionnalisation, mais aussi dans une interaction qui va être plutôt du côté du développement professionnel de la personne. Et il nous semble que, et même, je crois que nous, dans les échanges avec vous, ça nous est apparu de manière beaucoup plus évidente que dans nos propres échanges, c'est-à-dire qu'il y a bien une négociation identitaire aussi du côté du formateur, qui lui aussi est à plusieurs facettes. Et par rapport à ça, en repartant de ce lieu, on a une question qui est présente, mais qui est beaucoup plus forte encore, qui serait de savoir si finalement un modèle, une grille de lecture de ce type pourrait pas aussi être un outil du développement professionnel du formateur. Et si la question du développement professionnel du côté des formateurs n'est pas une question aussi infiniment pertinente et j'ai envie de dire urgente dans le contexte. Voilà.
Juste pour conclure, il s'agit pas de valoriser une façon hein, de lire, c'est pas ça du tout notre propos, mais c'est par rapport aux questions que vous avez posées, de dire bon, en quoi ça permet peut-être de lire d'une certaine façon ce qui est en jeu dans l'évaluation. Au même titre qu'une autre approche permet de lire d'une autre façon ce qui est en jeu dans l'évaluation, et une troisième approche aussi. Bon, c'était important de le dire pour pas qu'il n'y ait pas de malentendu. On fait pas la promotion, hein, bien entendu.
Absolument, c'est pas le cas.
Bon, merci à l'équipe de Toulouse, c'était ça? Hein, voilà. Maintenant, on va passer à Rouen. Bon, j'arrête de dire des bêtises, mais il faut qu'on se réveille.
Non, c'est Marseille qui parle. Alors, nous avons décidé en fait de présenter un petit peu le retour par rapport à vos réflexions de ce matin autour de deux grands points, ce qui est structurant pour l'équipe et puis dans un deuxième temps les remarques impertinentes aux ateliers et aux collègues et à l'INRP. Impertinente et bienveillante bien sûr. Alors, autour des apports, en fait, hein, des réflexions qui ont été présentées ce matin, donc on va intervenir un petit peu tous les trois sur... En ce qui me concerne, je dirais que déjà, j'enlève un apport, puisqu'il a déjà été présenté par Richard, c'est l'idée que nous avons bien sûr à identifier de façon plus fine les obstacles à l'analyse. Et donc, peut-être que ça répondra probablement d'une certaine manière et encore de façon très, très provisoire à l'idée de la réflexivité embourbée dont parlait ce matin Anne. Donc, on est bien conscient qu'effectivement, il y a quelque chose là que nous avons à régler. Qu'est-ce qui fait que... l'analyse est en permanence court-circuitée dans les pratiques de retour sur l'action. Qu'est-ce qui fait que finalement c'est le jugement qui l'emporte immédiatement sur l'analyse? Alors là, on va travailler. On va travailler sur cette question-là. Il y a un deuxième point sur lequel je trouve que vos interpellations sont vraiment importantes pour nous. C'est cette question de la place du référentiel dans l'entretien. Elle n'est pas si apparente que ça, elle est souvent implicite. Et cette question du référentiel, moi j'ai l'impression que c'est encore, du point de vue du formateur, comme du point de vue du stagiaire, un bel artefact institutionnel. Et on n'ose pas le dire. Donc, à part les quelques pros de la recherche, les amoureux de la recherche sur la professionnalité qui... mobilise et manipule des référentiels, qui bricole autour de ces référentiels. Je trouve que la question des usages du référentiel lors des démarches d'entretien est une question encore à travailler, à approfondir. Un troisième point qui est de l'ordre de la temporalité. Alors non pas, comme vient de le présenter notre collègue du point de vue du discours du stagiaire, mais au contraire, du point de vue du processus, de la dynamique interactive entre le maître formateur, le conseiller pédagogique, l'inspecteur, encore une fois, et le stagiaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense qu'on a encore à approfondir la question de la temporalité du point de vue du processus dialogique, c'est-à-dire l'interaction langagière entre l'un et l'autre, sachant que cette interaction langagière doit se doubler d'une double préoccupation. Enfin, c'est l'idée que c'est pas parce qu'on interagit qu'on est pour autant dans un mode délibératif. Et c'est pas parce qu'on interagit qu'on est autant dans un mode de mise à plat. Alors j'ai bien aimé ce que tu as dit ce matin sur justement les valeurs en débat. Je crois que c'est ça qu'on a encore à travailler. C'est au cours de cette interaction qui est finalement très très courte. Hein. Christine, elle le soulignait tout à l'heure, c'est 3 minutes 30, c'est extrêmement difficile. De faire valoir un mode délibératif dans cette interaction. Et pourtant, il me semble que là, on a un enjeu d'abord un enjeu scientifique, savoir comment ça fonctionne, cette affaire-là, puis un enjeu pour la formation des formateurs, et en même temps, pour tous les cadres, pour tous les cadres intermédiaires. Donc, je crois que entre dialogique et délibératif, il y a des niveaux d'approfondissement d'une expertise dans l'interaction qu'on n'a pas encore réussi à clarifier. Ça, c'est très net. Ensuite, je laisse la parole à mes collègues.
Suite à ce qu'Anne a proposé concernant le premier point, c'était mettre en exergue les aspects qui nous sont semblés intéressants par rapport à notre propre présentation. On a été sensible au fait que certains d'entre vous aient repéré la dimension éthique de nos travaux. C'est un point qui est important, puisqu'en fait, nous avons assorti la méthode proposée par toute une série de précautions, recommandations, hein, j'utilise le terme, à la fois d'ordre conceptuel et technique. Bon, et c'est relativement déterminant, puisque les résultats de l'évaluation, on va le dire comme ça, sont liés aux conditions dans lesquelles va se mettre en œuvre. C'est fondamental. Donc, l'aval va être conditionné par l'amont. Voilà. Et donc, cette réflexion sur les conditions, bon, l'équipe de Marseille aussi, en parlant par exemple de la prescription, revient aussi aux conditions du développement. Bon, et nous aussi, d'une certaine façon, en mettant l'accent sur, par exemple, la reconnaissance du sujet. Ça peut être une des conditions, mais encore faut-il opérationnaliser pour qu'effectivement elle soit effective. Bon, toute cette dimension-là nous semble importante à développer. Et nous avons eu l'impression, en tout cas, que vous aviez entendu. Hein, bon, certains d'entre vous, j'imagine, avaient peut-être déjà largement évoqué cette question, mais vous avez entendu, en tout cas, ce positionnement, hein, y compris en termes scientifiques également. Hein, c'est aussi, je pense, important. D'ailleurs, je rappelle que nos collègues de Rouen, en présentant le film, ont bien insisté sur les limites de l'utilisation. Vous-même, ce matin, vous avez repris le terme de contexte, donc les éléments contextuels de limitation de l'utilisation des documents, etc., participent aussi de ces précautions. Il est fondamental, même si on amène des réserves sur ce qu'on peut faire, en tout cas, que ce soit bien énoncé, ce qui constitue le cadre dans lequel nous allons pouvoir penser et agir.
Oui, dans le même esprit, sur des aspects structurants qui ouvrent, Anne Jaureau le disait, sur des questions de recherche passionnantes, et puis un point de questionnement. Alors, moi, j'ai choisi l'entrée obstacle à l'analyse, hein, ça a été évoqué, on continue un peu sur la même piste. C'est vrai que je crois qu'il y a des aspects qui ont été soulignés par les groupes ce matin et travaillés hier, autour, par exemple, du compactage analyse et évaluation. Hein. C'est vrai qu'on a repéré hier dans le travail la possibilité, hein, pour le formateur, dans la même interaction langagière, d'avoir des éléments qui sont plutôt, on dirait, des éléments de constat d'ailleurs que d'analyse, et des éléments qui, du coup, à défaut d'être des éléments d'évaluation, sont plutôt des éléments de jugement. Alors là, en termes de questions de recherche, on pourrait presque le poser en termes de chronogenèse, hein, comme on le pose pour l'enseignement. Finalement, c'est la question du temps de l'analyse et la question du temps de l'évaluation, à envisager d'abord comme une question de recherche et ensuite, bien sûr, comme une question de développement professionnel. Le deuxième point qui est un point passionnant, c'est la question de l'idéal, hein, qui a été évoqué de différentes façons, je dirais, hein, l'idéal de l'activité, qui neutralise finalement, pour ce qui nous concerne, le souhaitable, hein, de l'activité, qui a tendance effectivement à faire peser une chape de plomb sur la partie souhaitable. Bon, là, je dirais qu'on peut poser la question évidemment sur le versant de l'activité professionnelle, mais de façon un peu plus large sur le versant anthropologique, hein, le rapport de l'homme à l'idéal, à l'absolu. Hein, je citerai, bon, on est en fin d'après-midi, on peut citer les poètes. Lamartine disait « L'homme est un dieu déchu qui se souvient des cieux, borné par ses limites, infini par ses vœux », ou l'inverse peut-être, « infini par ses vœux, borné par ses limites ». Je crois que là, il y a un rapport effectivement à l'idéal qui est présent dans les pratiques professionnelles, mais je crois aussi présent dans l'humanité, et nécessaire, hein, en quelque sorte. Enfin, ça, c'est une question qui m'échappe en tout cas. Mais c'est vrai que la façon dont on peut professionnaliser, c'est-à-dire questionner ce rapport à l'idéal, est quand même une question qu'on ne peut pas détourner en renvoyant l'idéal à quelque chose qui serait forcément négatif. Donc là aussi, il me semble qu'il y a des choses intéressantes que pose d'ailleurs Yves Clos autour du réel de l'activité, hein, c'est-à-dire qu'effectivement l'activité contrariée a une dimension, a une part de dimension idéale. Peut-être le dernier point qu'évoquait Richard Witorski hier, c'est la question des modèles d'analyse. Alors, qu'on peut poser en termes de questions de recherche adressées directement à la pratique de formation, puisqu'effectivement on peut se poser la question dans une interaction très courte du non-partage de modèles d'analyse. C'est-à-dire que la grande difficulté, effectivement, dans cette interaction entre deux personnes qui se connaissent ou qui se connaissent pas, c'est de, dans un espace dialogique, de construire une analyse commune avec des modèles d'analyse qui peuvent être quelquefois radicalement dissymétriques, voire pour certains inexistant. Hein. Donc là, il y a aussi une question. Alors, je continue une seconde sur ce point. C'est l'idée de se dire, finalement, est-ce qu'il y aurait un modèle d'analyse qui soit pas forcément un modèle de recherche, hein, avec toute la dimension un peu lourde, hein, je dirais, qui est associée, mais un modèle pratique, hein, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un modèle pratique d'analyse qui permettrait d'outiller les formateurs, mais aussi, je dirais, les formés dans cette interaction de formation? Voilà pour le point, je trouve, de réaction à vos remarques qui étaient extrêmement structurantes. Le deuxième point, alors beaucoup plus hasardeux, en termes de réaction un peu... voilà, personnel et vraiment à réfléchir, c'est la question de l'efficacité. Alors, un groupe ce matin, bon, disait qu'on n'était pas forcément... Enfin, voilà, un point qu'on rectifie dans l'efficacité. Si, on est réellement, nous, dans notre préoccupation évaluative, dans la question de l'efficacité. Alors, je dirais qu'on y est doublement pour poser la question ou le débat au regard de l'analyse de l'activité. C'est-à-dire que si on prend l'ambition de l'analyse de l'activité d'un côté et l'ambition de l'agir évaluatif de l'autre, on voit qu'on a des points communs, ça a été dit, autour, par exemple, de valoriser la complexité du métier. Bon, évidemment, je pense qu'on s'y reconnaît. Reconnaître les enseignants dans cette pratique, on y est aussi. Hein. Ceci dit, quand on tombe sur le versant de l'efficacité, alors là, on est sur des questions d'autant plus complexes que la relation enseignement-apprentissage est loin d'être évidente. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si on avait des réponses par les travaux de recherche sur comment enseigner pour que les élèves apprennent, on voit bien que les choses seraient relativement faciles, aussi bien du côté de la formation que du côté de l'évaluation, qui du coup se résoudrait à un simple contrôle. Hein. Je vous renvoie au débat d'il y a 3 ans sur les pratiques de lecture, évidemment. Quand on est persuadé qu'un certain nombre de méthodes sont de bonnes méthodes, l'évaluation est un travail relativement... aisé. Alors maintenant, si on pose la question de cette relation comme problématique, hein, il est difficile d'établir de façon scientifique ou rationnelle le lien entre l'enseignement et l'apprentissage. Alors là, on a deux voies qui s'ouvrent, et les deux sont intéressantes, je ne les mets pas du tout en opposition. C'est celle de l'analyse de l'activité qui s'en remet en quelque sorte à l'intelligence du métier. La ressource, voilà. Les enseignants sont ingénieux, la créativité de leur agir, et finalement, on se dit ce qu'il faut, en quelque sorte, c'est mettre à jour cette créativité et la diffuser. Hein, c'est le travail de la recherche, en quelque sorte. Bon, oui, on peut le poser autrement, c'est-à-dire qu'on peut se dire, effectivement, que d'autres indicateurs ont tendance à atténuer ou contredire cette inventivité. C'est-à-dire que les enseignants, les travaux de Marc Durand, il y a quelques années, montraient que, par exemple, la recherche de confort, d'une atmosphère sereine, d'une forme finalement d'accommodement des deux parties, peut conduire effectivement à sous-estimer la question de la réussite des élèves, qui est une question importante. Alors je dirais que si on a présent à l'esprit que la relation enseignement-apprentissage ne peut pas être rationnelle ou scientifique, on voit bien que là, on arrive, pour l'évaluation, sur un espace de dialogue formidable. C'est-à-dire que là, ça ne se pose pas en termes de bonnes pratiques, mais de pratiques à valoriser. Et là, on est dans un espace de tension, de négociation, et je dirais, je termine sur ce mot, que du coup, l'évaluation devient un espace de dialogue formidable pour faire dialoguer le macro, le méso et le micro. C'est bien dans cet espace qu'on peut arriver à dire non pas quelles sont les bonnes pratiques, mais quelles sont les pratiques qu'on souhaite valoriser. Voilà.
Alors le deuxième temps, merci. Voilà. Alors le deuxième temps, c'était, comme Anne l'a annoncé, des remarques, disons, plus impertinentes en regard, n'est-ce pas, de la présentation de l'annonce qui avait été faite ce matin déjà. Alors quelques points nous ont marqués. Bon, je vais peut-être en mettre deux en exergue. Ce qui nous a marqué, notamment dans l'atelier auquel nous avons participé. Ça a été les obstacles, puisqu'on parle facilement des obstacles de l'évaluation. Nous avons considéré qu'il peut y avoir aussi des obstacles à la mise en place d'une démarche analytique proposée par les équipes de recherche, puisque quelquefois, nous avons eu l'impression, notamment au démarrage des ateliers, que des représentations prenaient le pas sur le travail qu'on pouvait proposer, que certaines habitudes étaient déjà constituées sur la manière de lire l'activité professionnelle. Bon, et là, il nous semble effectivement, en termes de formation de formateurs, qu'il y a un véritable enjeu à investiguer, de manière à ce que réellement on s'occupe, on travaille avec les matériaux proposés et non pas en regard de représentations que l'on pourrait avoir effectivement de telle ou telle activité professionnelle. Bon, j'ai envie de dire, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, on a tendance aussi, par rapport au travail estudiantin, à avoir le même genre d'attitude. Et là, de ce point de vue, il y a sûrement, en termes de formation de formateurs, je ne sais pas si c'est un problème de posture préalable ou de compétences ensuite à mettre en œuvre, mais il y a probablement une réflexion à développer de ce point de vue. Bon, ça nous a marqué, je crois qu'on l'a dit systématiquement dans tous les ateliers. Bon, là, j'imagine qu'il y aura peut-être des réactions. Deuxième chose, et bon, là, je le dis aussi, mais ça peut nous concerner. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait un consensus, évidemment, sur le concept de reconnaissance. Il est de bon ton, évidemment, de considérer que c'est une bonne chose, de considérer qu'il faut valoriser l'acteur, etc. Alors là aussi, je crois qu'il faut être prudent. Je crois qu'il y a une exigence cognitive à avoir par rapport au concept de reconnaissance, c'est-à-dire, bon, stratégiquement, c'est porteur de l'utiliser, puisque tout le monde est d'accord. Il peut y avoir une récupération du terme, pédagogiquement, politiquement, etc. Bon, je crois qu'il y a un enjeu cognitif, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance et à quelles conditions peut-elle être réellement mise en œuvre. Sinon, on est dans un discours principiel tenu sur l'évaluation, auquel cas, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Voilà, c'était les deux remarques importantes que j'avais envie de dire. Je passe la parole à Anne, peut-être. Voilà.
Pour le dire autrement, je trouve qu'aujourd'hui, qui n'a pas envie de reconnaître ? Dans un discours, je dirais, sociopolitique, qui n'a pas envie de se préoccuper de la reconnaissance des acteurs ? Qui n'a pas envie de faire un travail, de valorisation ou au moins d'intérêt pour les acteurs quand on est en éducation et en formation. Et aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de passer, il me semble, dans la question de la formation des acteurs, d'une reconnaissance professionnelle, d'une reconnaissance sociale à une reconnaissance professionnelle. Et donc, c'est pas la même chose qui est en jeu. La reconnaissance sociale, nous on s'est basé sur les travaux de Net pour ça. La reconnaissance sociale, c'est effectivement la position d'acteur ayant un droit de parole, un droit d'agir dans une société, un droit de contestation. Dans la reconnaissance professionnelle, qu'est-ce qui se joue ? Parce que finalement, il y a un genre du métier. Ce professionnel, il peut dire aussi, on l'a dit ce matin, il y a des effets de stylisation trop développées qui font que finalement l'individualisme l'emporte sur le genre de l'activité. Et du coup, qu'est-ce qu'on reconnaît? Donc je pense qu'il y a, si vous voulez, du point de vue de la reconnaissance professionnelle, tout un travail de clarification à mener, parce que il ne faudrait pas qu'on pense la reconnaissance professionnelle avec les arguments de la reconnaissance sociale et politique. Ce n'est pas les mêmes niveaux. Donc ça, c'est vraiment une question forte, hein, qu'on vous renvoie, mais qu'on s'applique à nous-mêmes, parce que c'est extrêmement difficile de la travailler. Hein. Et puis, tout à l'heure, je vous disais, il y a une remarque impertinente pour tout le monde, y compris pour nous. Et donc, Françoise, Catherine, voilà. C'est l'usage que nous faisons du terme efficacité. Je crois vraiment que là aussi, il faut qu'on soit sacrément précis, parce que quand on recourt au terme d'efficacité, moi je me dis attention, il faut peut-être le contextualiser, ce terme, il faut peut-être lui redonner un sens dans un contexte donné par rapport à des visées particulières. Parce que sinon, on a un peu tendance à accentuer, malgré nous et sans le vouloir, hein, sans vraiment le vouloir, notre corps défendant, l'idée qu'il y aurait finalement ce paradigme de la mesure qui s'impose à nous et sur lequel quand même on est en souffrance. Hein, on est quand même en souffrance, nous, acteurs. Paradigme de la mesure et paradigme de la gestion. Et il me semble que je crois qu'on a souvent dit dans ces deux jours que... il y avait une réflexion sur l'épaisseur du métier, la qualité des gestes professionnels. Et puis on a fait comme une espèce de déport qui serait peut-être parallèle et qui ne l'est pas du tout en fait, avec un discours sur une pratique efficace. Et moi j'aimerais bien qu'on mette des emboîtements autour de ça, c'est-à-dire que on est des ordres de grandeur sur de quoi parlons-nous quand on parle de l'efficacité, de quoi parlons-nous quand on parle de qualité. Nous, on revendique, alors peut-être parce que ça nous heurte profondément dans notre façon de penser les choses, le monde et l'évaluation, mais on a clarifié pour nous l'idée que l'efficacité est un des ingrédients de la qualité. Donc on ne peut pas le considérer comme un concept isolé qui serait comme ça existant. Et c'est vrai que on réfute totalement le discours institutionnel qui nous est balancé à l'université, par exemple, autour de l'efficacité. Et cette question-là, enfin moi je me souviens ici même, il y a un an, c'était au mois de mars 2008, c'était un colloque sur... le socle commun et en didactique du français, où on a drôlement travaillé la question du maître efficace ou de l'enseignant professionnel. Hein. Et moi, je voudrais aussi qu'on interroge ces ordres de grandeur quand on est dans des situations comme nous les vivons depuis hier, autour finalement de l'accompagnement de professionnels dans l'incorporation de savoir, etc. Donc, quel est l'usage que nous faisons de l'efficacité et comment nous le situons par rapport à d'autres termes qui pourraient être accolés aux termes de professionnalité ou d'enseignant professionnel ou de bon enseignant, si on parle de bon enseignant. Hein. Voilà, donc il me semble que... je crois que... Moi, ça me gêne énormément, ce terme efficacité. J'ai l'impression qu'il y a une réduction terrible... une instrumentalisation du monde enseignant et on le répercute dans nos discours quelquefois sans s'en rendre compte. Voilà. Oui, mais comme disait Anne ce matin, il y a des controverses autour des valeurs. Ouais. Bah, c'est une valeur dans le paradigme de la gestion. Oui, c'est la valeur dans le paradigme de la gestion.
Toute la dimension esthétique qu'il peut y avoir chez les enseignants. Cette jeune collègue-là, quand elle parle, Dominique, elle a quand même le sentiment d'une efficacité, d'une certaine efficacité. Par exemple, elle dit, si tu étais venu ce matin, cet après-midi, de son point de vue, c'est un petit peu mieux. Elle a réglé un certain nombre de choses. Donc là aussi, je pense que l'efficacité se discute au niveau là de quel curseur est où, qui est couplé, pour rebondir sur l'intervention de Anne, sur la question de la reconnaissance. Je crois que dans notre équipe, la reconnaissance du travail, enfin, elle se situe moins en termes, je dirais, de bienveillance ou de reconnaître l'autre au sens de le valoriser, mais plutôt la question que posait Jean-Claude à l'instant, c'est-à-dire le métier enseignant reconnu et reconnaître le métier enseignant comme travail. C'est-à-dire à la fois l'inscrire dans cette dimension historico-culturelle, hein, qui est notre cadre théorique. Ça veut dire quoi ? Reconnaître le travail, c'est le reconnaître sur sa dimension multidimensionnelle. C'est-à-dire le reconnaître à la fois dans sa dimension impersonnelle, et nous, c'est notre manière d'entrer dans cette question de l'évaluation par les prescriptions, mais vous voyez que c'est directement connecté à la question de l'évaluation, bien entendu, hein, cette prescription. Donc quelles sont les dimensions impersonnelles du métier, et comment les gens s'en accommodent, qu'est-ce qu'ils font ? Anne ensuite parlait des dimensions collectives du travail. Ben oui, la dimension collective, c'est-à-dire dans le collectif de travail, comment les gens remettent à leurs mains, hein, comment ils tordent, pour reprendre l'expression favorite de Fred Saujean, hein, comment ils tordent ces prescriptions et ces outils, comment ils en font des ressources et des outils pour leur propre travail. Je dirais d'abord collectivement, comment on se met d'accord collectivement que dans le cadre du français, on ne finira pas le programme avec cette classe-là. Hein, et si l'IEN est avec nous pour se mettre d'accord sur cet aménagement des prescriptions, c'est tant mieux. Nous, par exemple, Devaux, c'est Philippe Devaux, un IPR de français à Marseille, hein, qui accompagne les équipes et qui voit comment on peut ajuster les programmes. Donc là, il y a cette dimension, je dirais, interpersonnelle, hein, qui rediscute les questions d'évaluation et de ce qu'on peut exiger. Parce que dans évaluation et efficacité, il y a aussi les exigibles. Qu'est-ce qu'on peut exiger à quel moment ? Il y a la question aussi transpersonnelle, c'est-à-dire ce qui se, dans cette perspective historique, hein, qu'est-ce qui se transmet, qu'est-ce qui se discute, comment ça se retravaille. Sur la question des ressources, et là je suis pas tout à fait d'accord avec toi, lorsque les ressources, c'est pas que des outils physiques et matériels. Être capable, comme on le voit chez Stéphanie ou chez Eric, de dire non mais attends, moi ça je le fais plus parce que j'ai besoin de m'économiser, évidemment. Toute la question de l'efficience, de la santé au travail, hein, c'est-à-dire comment on peut s'économiser dans les 10 compétences du référentiel de compétences, il est une des compétences qui n'existe pas. C'est comment on forme dans la formation des enseignants à tenir. Voilà. Ça c'est une vraie question aussi, qui est une question aussi qui est liée à l'évaluation. Donc voilà, toutes ces multidimensions, je dirais, de l'activité de l'enseignant sont extrêmement liées à la question d'évaluation. Comment on traite cette question ? Et pour nous, la question de la reconnaissance est plutôt reconnaître, hein, le métier au sens de travail dans cette dimension, hein, multidimension personnelle, interpersonnelle, transpersonnelle, hein, qui se transmet ou pas. Et là-dedans, nous, notre position, c'est comment, alors pas vraiment dans le terme d'accompagner, mais de seconder, comment on peut créer à notre tour, hein, comment la recherche peut-elle créer aussi des ressources pour permettre aux équipes de remettre ça en débat dans de nouvelles perspectives. C'est-à-dire comment on peut s'approprier ça et finalement oser un débat de valeur, parce que dans l'évaluation, il y a évidemment tout ce débat de valeur, tout ce débat de normes, tous ces conflits de critères. Et je crois que, Anne, tu citais le travail de Françoise Lantôme. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce qu'elle rapporte, c'est justement dans ce débat de ce conflit, ces conflits de critères, ces débats de normes, combien certains enseignants, dit-elle, certains en arrivent à ne plus descendre dans la salle des profs parce que justement les conflits de normes sont tels qu'ils ne sont plus sur la dimension professionnelle, mais sur la dimension personnelle. On finit par ne plus s'entendre avec le copain et de toute façon il ne peut pas entendre les choix que j'ai faits et du coup je ne descends plus dans la salle des profs parce que je ne veux plus avoir affaire à lui. Et là il y a aussi cette dimension de... Je veux pas non plus dramatiser parce qu'on en a assez là en ce moment, mais dans cette question de la souffrance au travail, je crois que reconnaître le travail, c'est aussi prendre cette dimension-là, hein, qu'en font les gens, comment on peut rediscuter.
Et à l'intérieur de la salle des profs de lycée professionnel, la salle des profs de maçonnerie n'était pas la même que celle des profs de bois. Et les profs de PS, là-dedans, oscillant, c'est-à-dire allant se faire payer des coups dans la salle des profs de maçonnerie, mais discutant un peu boulot avec les profs de français quand même dans la salle ordinaire. Et c'était, enfin, voilà, le bouquin de François, c'était exactement là.
Bon, je voudrais pas polariser les choses du tout sur la question de l'efficacité, puisque c'est pas du. Mais je reprends, parce que. Et donc effectivement, bon, moi je pense qu'il faut savoir de quoi on parle, il faut être beaucoup plus précis, il faut resituer les choses les unes par rapport aux autres. Mais quand je redis ça, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est pour remettre quand même dans nos interrogations, même si on est effectivement dans la compréhension du travail de l'enseignant et de son développement et de son point de vue, remettre quand même la question toujours des élèves en échec, qu'il y en a quand même un certain nombre, et que ce sont les élèves de milieux populaires en échec ou en décrochage, et donc ne pas oublier cette question-là quand même, ne pas les déconnecter, quoi. Alors bien sûr, on va pas les connecter de manière complètement positiviste, binaire, etc., mais ne pas l'oublier, voilà. C'est ce que j'avais dit un tout petit peu au moment de l'introduction, et c'est une question aussi de valeur, sans doute, hein, de la place de ces élèves dans notre système éducatif et de leur chance d'apprentissage. Je ne sais pas comment dire autrement. Mais bon, ce n'est pas l'objet du débat, mais c'était pour expliciter un petit peu.
J'ai envie de répondre qu'il peut faire tout aussi malentendu lorsqu'il est blocage, lorsqu'il n'existe pas, etc. Donc je ne crois pas qu'on oublie ça. Je crois simplement qu'il y a des... Enfin, il me semble, je crois qu'il y a des débats sur les postures pédagogiques, sur même aussi les professionnalités construites autour de l'échec scolaire, avec l'idée qu'aujourd'hui, il y aurait finalement... une sous-professionnalité. Moi, j'ai longtemps hésité à trancher sur les deux métiers d'enseignant. J'ai fini par dire que ça me paraissait pas si net que ça, mais à savoir qu'il y aurait une professionnalité particulière de la difficulté scolaire, hein. Ce qui était esquissé par Agnès Van Zanten dans l'école de la périphérie, ce qui est esquissé par plusieurs chercheurs. Donc là aussi, avec des compétences qui seraient particulières, etc. Donc là, c'est effectivement un thème important. Et puis je voudrais juste vous dire que j'aime pas beaucoup Lamartine, mais j'aime les poètes en général. Mais que il s'agit pas d'une aspiration métaphysique, d'un élan par l'individu qui donne sens à sa propre vie, effectivement. Il s'agit du durcissement d'un pôle de prescription lié à un certain fonctionnement du monde du travail et sur lequel l'individu n'a aucune prise. Donc ça me paraît pas être le rapport aux cieux. C'est vrai qu'il y a toujours une dimension idéale de l'activité, mais qui est pas forcément du tout là où le voit le pôle de prescription. Et qui peut ne rien avoir à voir avec ça. Donc, voilà. Mais si tu vive les poètes.
Mais il me semble que la question de l'efficacité et des élèves en difficulté rejoint aussi la question de la mesure. Moi, je travaille beaucoup sur les aides spécialisées dans les réseaux d'aide. Et là, on se retrouve typiquement face à des situations qui sont inévaluables par la mesure. C'est-à-dire une aide spécialisée, une rééducation d'un élève, rééducation relationnelle, son efficacité en termes scolaires ne peut pas se mesurer par des résultats scolaires. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il y a eu 3 ou 4 rapports successifs disant que les aides des réseaux étaient inefficaces. Et là, on voit bien qu'il y a un vrai souci de repères, parce que avec en plus tout un tas de phénomènes sociologiques de changement de population qui font que même si on avait une mesure dans une temporalité longue, on mesurerait pas forcément la même chose. Et je crois que les aides spécialisées notamment renvoient bien cette notion. J'ai bien aimé la phrase que l'efficacité est un des ingrédients de la qualité d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on ferme notamment tout un tas de centres d'aide aux élèves. Je pense là dans l'éducation spécialisée, les réseaux d'aide ont failli quand même être fermés au nom de leur inefficacité globalement. Comme quoi, des petites aides plus structurées et plus didactiques seraient plus efficaces. Et je crois que ça nous renvoie aussi à la question des valeurs et de l'idéologie aussi là-dessus, quoi.
J'ai oublié de dire à propos de l'évaluation, de ces fantômes de l'évaluation et d'une évaluation qui serait, comme tu l'as très bien dit, Anne, dans le paradigme de la mesure ou de la gestion, ce que fait l'évaluation aux établissements scolaires, enfin c'est ce que j'avais étudié, c'est aussi de creuser l'écart entre la mesure quantitative et la perception qualitative du travail des acteurs, et c'est exactement ce que vous venez ou ce que tu viens de dire, et ça c'est un écart et un divorce entre une construction de la réalité par ces indicateurs quanti et la perception qu'ont les gens. Et autrement dit, comme dit Dejour, le Dejour dit très bien, dans certains cas l'évaluation fait disparaître le travail. Et donc on voit très bien comment on est au plus loin de ce que vous avez, et en particulier Toulouse, présenté. On est au plus loin de ça. Mais une certaine évaluation fait disparaître le travail. Et moi, c'était le cas dans l'établissement où je suis restée un an et demi, parce qu'ils avaient amélioré le climat, ils avaient pacifié l'établissement avec un boulot de dingue, ils avaient appris à gérer plein d'incidents, et les résultats au brevet étaient plus mauvais que l'année d'avant. Ils étaient plus mauvais. Ils sont remontés, parce que j'ai continué à les suivre, ils sont remontés 4 ans après. 4 ans après. Ouais. Ouais. Or là, l'expertise, ben normalement, les résultats, ils auraient dû être meilleurs, parce qu'on dit, un des résultats sur l'efficacité, c'est que plus on passe de temps dans les classes et moins on en passe, affiche le bazar dans la récréation, normalement, plus on devrait être efficace, non? Mais c'était pas le cas. Et donc, en fait, ils ont vécu dans cet écart. Et je pense que c'est la même chose pour ce type d'établissement. Et que ça va devenir une donne commune de l'expérience des acteurs, qui, effectivement, a aussi des enjeux de reconnaissance, là. Voilà, je voulais réagir à la
veine qui passe dans les établissements qui tournent là sans cesse. Je dirais que les enseignants qui étaient aussi un peu éloignés de ces questions, là, ils sont directement confrontés. C'est-à-dire, quelle est l'évaluation qu'ils peuvent faire de l'efficacité des dispositifs qui sont mis en place dans les réseaux d'éducation prioritaire, compte tenu des moyens humains, matériels et financiers qui sont alloués à ces établissements. Et là, dans le travail que tu as fait sur les chefs d'établissement, on voit là aussi des choses qui sont en train de se produire, à savoir des chefs d'établissement, par exemple, qui disent, d'ailleurs aux chercheurs, alors on est un peu pris en otage, hein, où tous ces dispositifs-là, moi je vais recentrer ça sur le PPRE, je vais mettre l'accent sur liaison CM2, 6e, et vous allez voir tous ces dispositifs-là de DP3, DP6, comme ça va balcer. Donc là aussi, au niveau des équipes de travail, ça va. Et du coup, les enseignants sont directement confrontés à cette évaluation mesure, c'est-à-dire que du coup, ils se disent quels sont les critères que je peux imaginer pour permettre de rendre compte d'une certaine efficacité. Alors ça, c'est amusant n'est pas le terme, mais on voit comment les équipes se mobilisent sur des choses qui s'éloignent encore de nouveau du pédagogique, parce que là, il faut vraiment qu'ils rendent compte. Hein.
Pour compléter ce que disait Christine, on a travaillé sur la co-intervention et pour répondre à ce que disait, sur ce conflit de critères entre ce que l'on demande à certains établissements, donc en zone sensible, d'effectuer, au nom de critères soi-disant objectivés, hein, donc critères réussite au brevet, etc. Donc on annonce au nom de la LOLF que vous avez effectivement le droit à certains moyens et donc on vous en impose quelque part. Et donc on a regardé un petit peu ce qui se passait au niveau de la co-intervention entre assistants pédagogiques dans les classes et enseignants habituels, et où on s'aperçoit qu'au nom de grands principes, évidemment, c'est très difficile de dire que, de refuser l'idée que, effectivement, plus on met de moyens pour aider des enfants en difficulté, mieux ça serait. Donc, on s'est aperçu que deux fois plus d'adultes dans les classes, deux fois plus d'aide, c'est pas forcément deux fois plus simple, loin de là, et c'est pas forcément deux fois mieux, quoi. En termes de résultats, là encore, dit peut-être objectivé. Donc, quand on regarde l'analyse effectivement réelle dans les classes du travail qui s'y fait, on voit vraiment le conflit là au niveau de l'évaluation de l'efficacité qui peut en découler.
Hein. C'est une vraie question pour les enseignants. Oui, sur les enseignants référents, parce que l'idée c'est que les enseignants référents qui ont été donnés en plus dans les réseaux Ambition Réussite, les 4. C'est provisoire et ça va être leur efficacité avec tous les guillemets que l'on veut va être mesurée pour prolonger ou ne pas prolonger ce dispositif. Et donc effectivement, en fonction de quelle évaluation ça peut se faire. Mais on a tendance à piloter de plus en plus le système de cette manière-là, et en particulier les réseaux Ambition Réussite, c'est très très fort. Donc comment on le pense aussi cette question pour pouvoir faire état d'une réflexion à ceux qui l'organisent.
Et je me dis qu'on peut être enseignant et on est enseignant en ayant cette double reconnaissance, mais pas forcément par ses pairs.
Pour tenir le micro.
Pas forcément par ses pairs et ses... les conseils pédagogiques ou les formateurs, mais on peut essayer de chercher ou avoir tout simplement de la reconnaissance et sociale et professionnelle par ses élèves et ses parents d'élèves. Et on peut être finalement en inadéquation avec les programmes, avec ce qu'on fait, mais avoir une reconnaissance sociale parce qu'on a envie d'être reconnu dans la rue comme un bon professeur. Je donne beaucoup de devoirs à mes élèves. Les parents adorent ça. Et donc j'ai par là même une reconnaissance professionnelle. Mais si ça se trouve, en classe, les enfants s'ennuient terriblement, je fais du gavage, tout va très bien. Donc après aussi, où est-ce qu'on situe cette reconnaissance sociale et professionnelle? Où est-ce qu'on la cherche? Est-ce qu'on la cherche parmi ses pairs? Ou est-ce qu'on la cherche aussi parmi... Bon, ça n'a rien à voir avec les enfants en difficulté, mais je les aime beaucoup quand même.
Alors, moi, je me posais une question par rapport à tout ce que je viens d'entendre, puisque ça fait 2 jours. Et donc, la question que je me pose, c'est comment je vais opérationnaliser tout ça quand je vais rentrer chez moi sur le terrain? Qu'est-ce que je vais dire? Et donc, sur la question de l'évaluation, en fait, ça me réinterroge complètement. Et je me dis, les questions très triviales que je me pose, c'est combien de temps pour apprendre un métier ou une profession? Est-ce qu'il y a un point de non-retour à partir duquel on peut déterminer que, bon, il est apte, finalement, à enseigner? Alors, comment repérer ce point? S'agit-il de mesurer des résultats? On a fait référence à ça, les résultats des élèves, puisqu'on est là pour enseigner à des élèves. S'agit-il d'adopter des comportements qui sont des comportements reconnus, convenus à l'avance? Ou bien s'oriente-t-on vers une construction du métier en permanence? Et alors là, je m'inquiète parce que je me dis c'est un abîme pour un débutant. Et finalement, la question que les débutants posaient dans les extraits qu'on a vus aujourd'hui, ils faisaient appel au jugement. Même quand ils semblaient être assez satisfaits d'eux, ils demandaient « mais est-ce que c'est bien ?» Et je me suis dit que peut-être, bon, en fonction aussi de l'expérience que j'ai sur le terrain, je suis un partenaire de terrain, pas dans la recherche, finalement, quand on arrive droit au but en répondant à leurs questions, est-ce que ce n'est pas finalement rassurant, sécurisant et en même temps économique du point de vue du stagiaire? Parce qu'il arrive à se situer sur une échelle et finalement il réfère à du « c'est bien, c'est pas bien ». Ce qui fait que ça lui laisse une marge. Si c'est bien, je vais travailler autre chose, ou bien si c'est bien, c'est déjà ça. Donc ça pose aussi la question des valeurs, bien sûr, et puis de l'évaluation. Alors j'ai entendu... mais dans la classe de Bégodeau, par exemple, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Est-ce qu'on se satisfait du « ça fonctionne » ? Qu'est-ce que ça veut dire « ça fonctionne » ? Qu'est-ce que ça veut dire « être efficace » ? Quels sont les critères qui sont cachés derrière ça ? Parce qu'après tout, ça fonctionne, oui. Ça peut fonctionner si c'est calme, s'il y a de la discipline. Mais bon, est-ce qu'il y a des apprentissages ? Quels sont ces apprentissages ? Comment les mesurer ? Comment les voir ? Comment le professeur peut s'en satisfaire ? Parce qu'après tout... Un élève turbulent, je le fiche au coin, au piqué, et puis ça fonctionne après. Ma classe fonctionne. Alors, est-ce que c'est ça? Je veux dire, on réinterroge les valeurs. Où sont-elles? Au nom de quelles valeurs? Nous sommes dans une société qui bouge, c'est une lapalissade. Et donc, je crois que ces valeurs, elles sont du domaine de... Bon, avant, l'école, c'était certain, ça nous amenait quelque chose. Et puis, une autre question que je me pose, c'était sur la didactique des disciplines et le lien avec tout ce questionnement. Parce qu'on a parlé du référent, le référent des 10 compétences, du métier en général, où chacun a sa conception du bon métier, mais la didactique des disciplines. On a projeté tout à l'heure quelque chose sur les arts plastiques, et bon, les arts plastiques ont une didactique très spécifique, avec une incitation, une énigme posée en début de cours pour inciter à la production, à la création, et quelquefois, cette didactique des disciplines, elle vient... on va dire, elle se heurte à ce qu'on peut analyser dans la classe, parce qu'elle est un référent qui est très... Alors là, elle est souvent, chez les professeurs du second degré, elle est très intériorisée, ou elle s'intériorise très vite, ou elle est très vite acceptée comme norme. C'est-à-dire, hein, si on fait A avant B, c'est bon, c'est la didactique de la discipline. Après, comment ça fonctionne dans la classe? Bon, le professeur de formation générale dans les IUFM ou ex-IUFM venait déranger tout ça en disant « bah, c'est pas évident, puis peut-être qu'il faut pas commencer comme ça ». Donc, comment fait-on avec cette espèce de carcan? Et bon, pour finir, j'en arrivais sur la question qu'on avait posée au début, savoir et les publics dits difficiles ou les publics en difficulté dont on posait la question tout à l'heure. Bon, ça, c'était un petit peu toutes ces choses-là que j'ai brassées. Mais la douloureuse question, quand même, c'est l'opérationnalisation sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Parce qu'il faut bien en faire quelque chose. Le temps, il est pour les stagiaires, il est pour les formateurs, mais il est aussi, quelque part, pour l'avenir du métier, malgré tout.
Oui, je répondrai pas à Catherine, mais je participerai à l'interrogation. Et moi, je m'étais déjà mis dans la marge quelques pistes. Dans l'échange praticien-chercheur ou laboratoire spécifié sur ces recherches, c'était riche et moi, même si on aurait, nous, praticiens, aimé intervenir ou interagir davantage hein, par rapport, et continuer un petit peu ce qui s'est fait déjà hier après-midi, moi, j'ai beaucoup relativisé, revisité ce que nos pratiques hein, en IFM. Et moi, je vois quand même des axes. Quelle opérationnalité je m'étais mis. Donc, des choses comme il faut absolument, mais aura-t-on la possibilité, mais comment trouver et inventer les pratiques qui permettraient d'améliorer la temporalité. Et l'une de ces temporalités, on discutait aussi avec Pierre ce midi, c'est on est un peu comme les enseignants, on voudrait tout faire vis-à-vis de la formation. Et pourquoi ne pas déléguer et renvoyer aux stagiaires, comme par l'intermédiaire du portfolio, ça a été une pratique inventive, mais des situations où, en fin de compte, lui va pouvoir analyser sans que moi j'analyse à sa place. Il y a tout un champ d'opérationnalisation là-dessus. Et notamment, c'est aussi, en termes de temporalité, chercher l'essentiel plutôt que le courir derrière l'utopie de tout ce que l'on pourra jamais faire. Et par exemple, l'essentiel, c'est former un stagiaire à pouvoir prendre conscience et analyser sa propre pratique. C'est-à-dire, pas analyser toute l'heure, pas analyser tous ses 6 mois de stage ou l'ensemble. Ça, il peut le faire dans un portfolio, on peut trouver d'autres outils. Mais par contre, passer 5 minutes avec lui assez régulièrement à analyser en termes de micro-évaluation, d'auto-explicitation, eh bien, une pratique, un incident critique, etc. Lui donner... Et donc là, point fort renforcé pour moi, d'après ce que vous avez dit, malgré que dans vos recherches, on l'a évoqué un petit peu ce matin avec les identités, dans vos recherches, je trouve que la parole donnée à l'acteur, qui devient un sujet, hein, un sujet parlant, pensant, la place de la parole donnée à l'autre me semble insuffisamment prononcée comme un principe très fort de changement des pratiques et d'auto-formation. Donc ce temps donné à l'autre pour expliciter des priorités qui vont l'amener à se changer, à se trouver comme identité. Ça me semble important. Et puis, troisième, pour ne pas conserver la parole trop longtemps, c'est il faut que dans nos institutions, que ce soit des UFM, feu les UFM, toujours encore chez nous, mais demain on verra, mais dans les institutions de formation, ces espaces de dialogique, de négociation, hein, pour chez vous, de... Tu avais un bon terme hier, de transaction hein, identitaire, mais ces espaces de dialogue soient renforcés. Alors, pas forcément avec un formateur, des fois entre stagiaires, avec différents formateurs, mais qu'on ait davantage cette place à la controverse pour éviter que les maîtres ne deviennent des gourous trop souvent.
Oui, j'ai une interrogation qui va peut-être paraître un petit peu décalée. En m'étant inscrite à cette formation, je pensais qu'on travaillerait également sur l'évaluation des enseignants qui sont déjà titularisés. Dans l'intitulé, on parlait de formation continue des enseignants. Et je suis conseillère pédagogique. Le plus gros problème qu'on rencontre dans la relation entretien-conseil ne se situe pas avec les enseignants débutants, mais principalement avec les enseignants anciens qui ont une image d'enseignants confirmés et pour lesquels quand on nous missionne sur une démarche d'aide pour éventuellement viser la modification des pratiques, c'est là qu'on est nous le plus en difficulté. Donc cette question de l'intervention, de l'analyse du travail de l'enseignant entre guillemets confirmé, et son évaluation, comment est-ce qu'on peut se replacer, enfin toutes les questions qui ont été abordées ce matin en termes de reconnaissance mutuelle des places, en termes de voilà, ce sont toutes des questions qui pour nous sont beaucoup plus cruciales quand on a affaire à des enseignants anciens. Voilà, donc est-ce que c'est un chantier qui va être ouvert ou pas?
A contrario, moi j'ai envie de te dire que d'avoir participé à ces deux jours, enfin on est déjà dans le bilan, là je m'aperçois il est déjà, hein, mais j'ai envie de dire que ça m'a donné, puisque je suis conseiller pédagogique, quelques outils différents et en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Hein, Luc a employé un terme, il parle de TX, hein, parce que finalement comme ça on n'a pas d'année. Ça va me permettre de m'adapter, j'irai différemment en fonction des difficultés que je rencontre avec le stagiaire que...
Chez moi, quand un conseiller pédagogique va voir un enseignant chevronné, c'est parce qu'il y a eu une inspection 15 jours avant, où l'IEN a dit « ça va pas du tout, tu vas le voir ». Donc là, le contexte, il est extrêmement précis. Pour reparler de ce dont on parlait tout à l'heure à la pause avec un collègue, le travail des conseillers pédagogiques avec les chevronnés, pour moi, il se passe essentiellement dans les animations pédagogiques. Et les quelques équipes de conseillers pédagogiques avec qui j'ai pu bosser moi là-dessus disent la chose qui ne va plus dans notre métier, c'est la situation traditionnelle, c'est-à-dire l'inspecteur nous dit tu dois aller faire une animation pédagogique là-dessus, on dit plutôt conférence pédagogique encore, et tu es sommé de faire 3 heures là-dessus. Un certain nombre de collègues disent on voit bien que ça ne marche plus, cette question-là, et du coup, on se pose la question, comment est-ce que, par exemple, on profite des nouvelles orientations sur les 18 heures pour construire de vraies situations d'animation pédagogique, et donc du coup, quel choix on doit faire de dire, par exemple, on va voir moins de gens, mais ceux qu'on va voir, on va travailler 3 demi-journées avec eux. Alors c'est vrai que c'est pas la situation que tu poses, mais c'est bien la question de quel rapport à l'individuel et au collectif avec les chevronnés. C'est-à-dire que dans ce que mènent les conseillers pédagogiques, la situation de la controverse professionnelle entre chevronnés, moi je la vois souvent disparaître au profit de l'imposition didactique ou de l'imposition programmatique. En disant l'IEN a ça à faire passer sur les nouveaux dispositifs, on y va. La prescription sur enseigner les sciences, c'est comme ça. Et la controverse professionnelle sur quelles difficultés on a lorsqu'on met des gamins en travail de groupe, c'est quelque chose, pour reprendre ce que tu disais sur, par exemple, ce que regarde ESCOL aujourd'hui, c'est quelque chose pour lesquels les conseillers pédagogiques aujourd'hui sont dans une grande souffrance. Ils disent on n'a pas le temps de le faire, pourtant ça serait ça qui fabriquerait du développement professionnel pour nous. Mais comme le disait Ergap ce matin, du développement professionnel, pour nous aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut dire se décaler de ses propres positions pédagogiques pour accepter de faire que chacun des enseignants qu'on a en face de soi ait droit de citer, même s'il est briguéliste. Enfin, voilà. Donc ça, c'est difficile pour les conseillers pédagogiques.
Moi, je veux bien rebondir sur votre proposition, mais il faudrait quand même aussi que le terrain nous accueille. Hein. Alors moi, je vais vous dire 2 choses. On a eu les plus grandes difficultés pour mener des entretiens filmés auprès d'enseignants, avec des conseillers pédagogiques, avec des inspecteurs. Ils refusent. Alors, on travaillera ces questions-là lorsque vous nous ferez confiance. Que ce soit bien clair. Et les seules personnes qui ont accepté ce travail-là, ce sont les enseignants qui entrent dans le métier, avec des conseillers pédagogiques qui acceptent ça. Donc il faut aussi que vous entendiez qu'on arrive à proposer des travaux de recherche parce que le terrain est accueillant à l'égard des chercheurs. Et parfois, il est quasiment hostile. Je crois qu'il faut que vous en preniez la mesure. Hein. C'est pas du tout, un événement isolé, ce dont je parle. C'est là, dans... Non. Dans la majorité des cas, vous m'invitez, je viens filmer. C'est pour ça, madame, que quand vous nous retournez cet élément-là, dites-vous bien qu'on est prêt, mais accueillez-nous.
Pour plus ne travailler sur Stéphanie et Eric,
Et on a eu un an et demi de latence pour essayer de se décider qui allait passer au trapèze, voulant être filmé, etc. Bon, ça a mis un an et demi de gestation pour qu'on accepte de vivre, nous, ce qu'on demande à vivre. Donc, ouais.
La petite expérience que j'ai me montre que plus les enseignants sont anciens dans le métier, plus c'est difficile pour eux d'avoir quelqu'un qui vient les regarder travailler avec eux, parce qu'il y a une mise en jeu de sa compétence qui est beaucoup plus dangereuse. Il y a un danger.
Moi, je voulais répondre à la collègue tout à l'heure sur deux ou trois points, mais qui sont maintenant du coup un petit peu déconnectés du fil de la discussion. Mais concernant ce que l'on peut en retenir, ce que l'on pourrait apprendre à nos débutants, peut-être en formation, je vous renvoie à très joli numéro d'éducation permanente de mémoire 2005, où il y a une belle table ronde entre Jaubert, Clos, Schwartz, Mayen, je crois que j'en oublie encore de mémoire, où ce qu'ils discutent, c'est de le fait que pendant longtemps on a cherché des invariants des situations de classe, par exemple, et sur lesquels on essayait de former les stagiaires, et qu'aujourd'hui il serait peut-être plus opportun, pour rejoindre les propos du collègue là, de chercher des invariants du développement des situations. Et comment, effectivement, un métier est une catégorie vivante, et comment donc on peut former des personnes à se saisir finalement de ces changements incessants et d'y être bien, efficace et bien. Ça, c'était le premier point. Donc, deuxièmement, concernant le fait de est-ce que finalement on va donner des recettes ou pas, vous disiez dire que ça c'est bien ou pas bien à un stagiaire, finalement ça lui fait gagner du temps, ça le rassure. On n'est pas contre, hein, je veux dire, parce que ça fait partie justement des recettes existantes, enfin des ressources existantes, pas des recettes justement, des ressources existantes, mais à condition de d'en rediscuter effectivement l'efficacité en contexte et en situation. C'est pas un a priori, c'est bien ou c'est pas bien. C'est que, effectivement, c'est un existant. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui en fonction de ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, hein. Voilà, donc ça aussi. Et puis, concernant la didactique des disciplines, donc là, j'espère pouvoir vous rassurer. Il y a beaucoup de filières où c'est plus du tout un carcan disciplinaire, où on n'interroge absolument pas les procédures qui pourraient être transmises, mais où au contraire, par exemple, je vois la mise en œuvre de nouveaux programmes, où l'injonction serait finalement assez rude, hein, de mise en œuvre. Nous, on voit, là, on a eu des nouveaux programmes l'an dernier. D'un seul coup, on a une espèce du fait du prince qui nous impose Histoire des arts sans que, puisqu'il n'y a eu aucune concertation. Cela dit, ça réinterroge les façons de faire du métier de façon tout à fait intéressante. Et par rapport à des stagiaires qui entrent dans le métier, c'est l'occasion aussi de discuter l'histoire, d'où nous venaient les précédentes prescriptions, et ce que l'on peut faire des nouvelles, parce que les prescriptions, ce qui est intéressant, c'est d'interroger tous les interstices dans lesquels on peut bouger. Donc, enfin, moi, franchement, je pense que dans la formation, il y a quand même aussi beaucoup d'espace de négociation, finalement, de compromis professionnels et de métiers intéressants.
Quand je prépare des journées comme ça, je dis toujours, je ne sais pas faire les conclusions. Ne me demandez pas, je ne sais pas les faire. C'est pas possible. C'est sans doute mon problème.
À l'année prochaine, et on ne vous dit pas sur quoi.
En tout cas, déjà, je voudrais vraiment vous remercier, tous les participants, pour avoir travaillé avec nous de cette manière-là, tous les formateurs, animateurs, chercheurs, puisque vous étiez dans ces différentes postures en même temps, vous remercier aussi pour votre engagement, quoi, dans ce travail, qui pour nous est très très précieux au centre. Catherine Perrotin a dû s'absenter, elle avait un rendez-vous important avec le secrétariat général, et elle m'a chargée de vous saluer et de vous remercier aussi. Et effectivement, on vous dit à l'année prochaine.